I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙着处理家务事。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Culture Monde, toute cette semaine en direct de la COP21 au cœur des négociations. C'est depuis le parc des expositions du Bourget où on a posé nos micros à côté de nos confrères de la NHK, nos confrères japonais. On va vous proposer donc 5 émissions cette semaine, des débats, des rencontres, des chroniques. On va vous faire vivre pendant une semaine cette grande messe du climat que le monde entier va scruter. Quelques 150 chefs d'État et de gouvernement du jamais vu, hein, ont fait le déplacement à Paris, épicentre de toutes les attentions depuis évidemment les attentats qui sont encore dans les têtes, hein, qui ont frappé il y a maintenant une quinzaine de jours Paris et Saint-Denis pour ce sommet majeur, donc pour l'avenir de la planète. Tout à l'heure, il y a eu en discours d'ouverture eh bien, le ministre péruvien de l'Environnement. On aura bientôt, dans quelques instants, je regarde au-dessus de moi, sur l'écran, pas encore François Hollande qui devrait s'exprimer et ouvrir justement les différentes interventions de nos chefs d'État et de gouvernement. Ils ont débarqué tout à l'heure, accueillis par François Hollande, par également Ban Ki-moon, Laurent Fabius, Ségolène Royal était également présente. On avait également aussi Cristina Figueres, qui est la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Voilà tout ce petit monde pour accueillir nos chefs d'État. Alors, le monde sera-t-il au rendez-vous? Sera-t-il répondre à l'urgence? C'est la grande question qu'on va se poser ce matin. Le 1er octobre dernier, 170 pays ont remis aux Nations Unies leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2025-2030. 170 pays donc membres de la Convention climat de l'ONU, c'est-à-dire 90% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ils ont donc communiqué leurs objectifs. Alors, est-ce que tout cela est satisfaisant au regard du seuil limite fixé par les Nations Unies de 2 degrés maximum? Est-ce qu'il faudra encore faire des efforts? Si oui, qui pourra, sera prêt à le faire? Est-ce que c'est de nature à répondre aux grands défis du dérèglement climatique? Et puis on s'intéressera évidemment à la question du financement. Pour évoquer toutes ces questions, répondre à l'urgence, deux invités ici en plateau avec nous. Céline Rammstein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet COP21 à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et puis également à nos côtés, Edwin Zakai, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Libre de Bruxelles et directeur du Centre d'études du développement durable. Alors, d'abord, première réaction, vous êtes arrivé ce matin, j'imagine, comme nous, évidemment un peu inquiet sur comment on allait accéder, est-ce que ça allait être simple, pas simple, vos premières impressions, d'abord, très facile d'accès, et vos premières impressions sur l'événement lui-même. On sent quand même qu'on est dans un événement historique, non, Edwin Zakai?
Il y a tellement de niveaux à ce type de conférence, on ne sait pas trop bien où se placer. On voit bien que pour les médias, c'est présenté comme effectivement un événement historique. Il y a beaucoup
150 chefs d'État et de gouvernement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire.
Oui, maintenant, c'est dans une continuité. On négocie le texte depuis, on peut dire, des années. Hein, donc c'est un moment dans tout un processus. Et en effet, on sent dans les discours qu'il y a quelque chose qu'on attend, qui se passe, qu'on espère.
Céline Rammstein, quand on s'intéresse aux relations internationales et à ce défi du climat, on est impressionné par l'événement?
C'est vrai que ça s'inscrit dans un cycle assez long, mais c'est l'aboutissement, je dirais. Le cycle de négociation avait pour mandat d'aboutir à Paris à un texte, à un accord. On y est, il reste plus que 2 semaines. Et comme a dit Laurent Fabius, voilà, vendredi, dans 2 semaines, on pourra dire si oui ou non ce mandat a été rempli et si oui ou non cet événement historique est à la hauteur des attentes. Et en termes d'organisation, moi, je saluerais pour l'instant l'organisation. C'est plutôt agréable de se promener. C'est plutôt bien organisé. On n'a pas attendu des heures comme on aurait pu le craindre. Donc,
et puis, vous pouvez comparer. Vous étiez à Copenhague, vous.
À Copenhague, certains ont parlé de 14 heures d'attente dans le froid. Enfin bon. Pour l'instant, ceci dit, des précautions avaient été prises pour demander aux participants de ne pas trop venir aujourd'hui en raison de la présence très forte des chefs d'État. On verra demain matin. Mais moi, j'étais là hier soir. Je suis venue ce matin. Pour l'instant, très peu de problèmes à signaler.
Et Edwin Zakai, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, par rapport à Copenhague, c'est vrai, ouais. C'est le jour et la nuit, et c'est vrai que le fléchage est très très bon dans les métros, par exemple.
Bon, ouais. Déjà, pour le moment, tout va bien. Jusqu'ici, en tout cas, tout va bien. Évidemment, quand même, on ne saurait commencer avec cet événement, il y a 15 jours, qui a traumatisé l'ensemble du pays, l'ensemble du monde, ces attaques terroristes. Et finalement, cette question du terrorisme et cette question du climat qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, ils ont quelque chose de commun, puisque finalement, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut vivre ensemble ensemble dans ce monde globalisé où on est tous finalement exposés aux mêmes risques. Donc d'une certaine manière, les deux problèmes se rejoignent. L'enjeu climatique, on sait que c'est un enjeu, bien sûr, crucial, qu'il va falloir mobiliser toutes les forces, toutes les énergies dans ce combat. On a vu combien justement nos chefs d'État et de gouvernement s'étaient focalisés sur la question du terrorisme, se sont efforcés de construire cette coalition la plus large possible contre Daesh. François Hollande a dit lors de son discours au congrès de Versailles que la COP21 devait être un moment d'espérance et de solidarité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur ce thème-là, que finalement la menace terroriste n'éclipse un petit peu l'enjeu climatique qui nous occupe aujourd'hui et qui va nous occuper pendant 15 jours, Céline Rammstein?
Alors, je crois qu'il pouvait y avoir en effet un risque, mais ceci dit, le fait que tous les chefs d'État aient confirmé leur venue dès le lendemain des attentats, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation sur le fait qu'il fallait venir à cette COP21. Le président Obama, qui pour des raisons de sécurité aurait pu préférer rester prudemment à Washington, s'est engagé à venir, il est là aujourd'hui, et ça je crois que c'est très important en soi d'avoir réaffirmé l'importance de cette conférence. Comme vous l'avez dit, c'est aussi un moment d'espoir, je crois que pour la communauté internationale c'est en soi un signe très important d'arriver à un accord à Paris pour dire sur un enjeu aussi important que le réchauffement climatique, on est capable de travailler ensemble, on est capable d'anticiper ces risques pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Hier soir...
On est capable de travailler ensemble, on va voir si on est capable de trouver un accord surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse. Je vous laisse poursuivre, Céline Rammstein.
Oui, tout à fait, on va voir dans les deux semaines. Je veux dire, si on y arrive, ce sera un signal doublement fort à cet égard. Hier soir, il y a eu une minute de silence pour les victimes de ces attentats. C'était un moment particulièrement solennel, et je pense particulièrement important pour aussi toutes les victimes de ces attentats. Et puis, un dernier point quand même, il faut le rappeler, ces enjeux climatiques, ils ne sont pas complètement déconnectés De ces enjeux de terrorisme et des problèmes d'instabilité qu'on a dans ces régions. On a eu des sécheresses au Sahel, on le sait, on a des problèmes de sécheresse au lac Tchad, on a déjà des millions de réfugiés, des personnes qui ont été forcées à quitter leur emploi, des agriculteurs qui ne peuvent plus travailler sur les terres qui étaient leur source de richesse. Tout ça contribue à l'instabilité dans ces régions-là. Alors, il n'y a pas de déterminisme, c'est pas parce que vous avez des problèmes environnementaux que vous devenez terroriste, mais on sait que le réchauffement climatique de plus en plus, et c'est pas que les écologistes qui le disent, ou que les scientifiques, c'est vraiment même le ministère de la Défense américain qui a fait de nombreux rapports sur la question pour dire, attention, le réchauffement climatique va accentuer des tensions qui sont déjà très importantes dans ces régions.
Edwin Zakaï.
Oui, donc c'est difficile à dire la question que vous posez là, sur l'influence. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y aurait nécessairement une énorme influence parce que ici, on est en France, bien sûr, on est directement touché, mais on a plus de 100 chefs d'État. Si vous y pensez, il y a du terrorisme malheureusement dans de très très nombreux États, et donc pour eux c'est pas nécessairement quelque chose de particulièrement nouveau. Oui. Et par contre, peut-être que dans les tractations par rapport au post-attentat, par rapport aux discussions de coalition, là il est vrai qu'on pourrait peut-être avoir...
Ça peut rentrer en ligne de compte.
Peut-être, quand la France négocie avec la Russie, et la Russie n'est pas nécessairement le meilleur élève ici. Voilà.
Vous dites que ça change pas forcément grand chose finalement pour les chefs d'État et dans le jeu diplomatique. Il y a quand même quelque chose qui change. Vous avez vu, la plupart des préfectures en France ont pris des arrêtés d'interdiction de manifester et d'une certaine manière, on a mis les sociétés civiles un peu de côté. Or, évidemment, il y a de nombreuses personnes, militants, activistes, engagés dans cette cause climatique qui disent ça, c'est une erreur. Votre regard, peut-être sur cette mise à l'écart de la société qui a été décidée. On peut le comprendre, évidemment, pour des raisons sécuritaires, mais est-ce qu'on peut pas aussi un peu le regretter, Edwin Zakaï?
Bon, maintenant, quand on répond à cette question en disant qu'on n'est pas sûr que ça changera quelque chose, il faudra le voir avec du recul. Les attentats du 11 septembre, ils ont réellement changé quelque chose fortement dans la dynamique environnementale, du développement durable de l'époque. Donc, il faut voir. Maintenant, par rapport à la société civile, effectivement, c'est vraiment très regrettable. On connaît tous beaucoup de gens qui se sont terriblement mobilisés. Maintenant, j'observais les manifestations qu'il y a eu dans différents pays et il y en a malheureusement pas eu énormément dans les pays en développement. Alors, c'est pas toujours les pays très démocratiques, mais quand on sait aujourd'hui à quel point la question finalement se pose par rapport au futur dans les pays en développement, il serait très important de voir aussi la société civile se mobiliser dans ces pays-là.
Oui, faut-il encore penser un cadre pour qu'elle se mobilise et la laisser aussi se mobiliser.
Oui, bien sûr.
Céline Rammstein.
Oui, je rejoindrai ce qui vient d'être dit. On a eu donc en France quand même une chaîne humaine qui était plus ou moins tolérée hier, qui a rassemblé des milliers de personnes. Bon, on a eu effectivement aussi d'autres événements qu'on peut regretter. Il y a eu dans l'ensemble des régions de France et des grandes villes d'autres chaînes humaines. Et puis dans le monde entier, c'est quand même 57 000 personnes qui ont participé à des marches dans effectivement surtout des grandes villes occidentales ou en Australie ou à Londres. C'est vrai que peut-être qu'il y aurait fallu qu'il y en ait plus dans d'autres pays du Sud, avec évidemment les problèmes qu'on connaît pour se mobiliser dans certains pays. Je voudrais juste dire que si on regarde par exemple à la conférence des jeunes qui a eu lieu là ces derniers jours, juste à côté d'ici à Villepinte, il y avait pour le coup beaucoup, beaucoup de jeunes venant de ces pays en développement, de pays pauvres. Ils s'étaient mobilisés pour pouvoir financer des aides pour les faire venir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très encourageant, de voir l'ensemble de ces jeunesses ensemble, avec un équilibre peut-être plus important que ce qu'on peut voir habituellement.
Alors, je lève la tête, hein. On voit que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est à la tribune. Il s'apprête à tenir son discours. Tout le monde s'installe. Vous êtes passé d'ailleurs dans la salle hier, hein, je crois, l'un et l'autre. Hein. Il y a 4 personnes par délégation. C'est quoi? C'est une salle de 800, 1000 personnes, quelque chose comme ça, hein?
Un peu plus que 1000, je
oui,
pense.
Oui, un peu plus, avec de la place un petit peu, mais pas énormément pour la société civile derrière. Mm-hmm. Et puis, là, on les voit qui vont bientôt s'exprimer.
Et je pense qu'ils attendent que tout le monde s'assied, tout simplement. La question, évidemment, qui va se poser et sur laquelle on attend une réponse, c'est est-ce qu'on va avoir un accord et surtout, quelle sera la nature de cet accord? Est-ce qu'il sera contraignant ou pas? Il y a 2 semaines, vous avez probablement lu la tribune du secrétaire d'État américain John Kerry qui déclarait au Financial Times qu'il n'y aurait pas d'accord contraignant. Évidemment, de l'autre côté, du côté de Ban Ki-moon, du côté de François Hollande, de Laurent Fabius, on a dit et répété qu'on avait besoin de cet accord contraignant. C'est quand même un problème quand le secrétaire d'État américain nous explique avant même que tout ait commencé que nous n'aurons pas d'accord contraignant, précisément, Céline Rammstein.
Oui, alors effectivement, ça a été un problème. D'ailleurs, le président Hollande a dû réagir, Laurent Fabius aussi, pour essayer de rectifier un petit peu.
Justement, Laurent Fabius, on l'entend, on l'écoute une seconde.
Dans le cadre de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation du président Hollande et à la mienne pour donner le coup d'envoi de cette conférence historique. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement commun à relever le défi du changement climatique. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies.
Voilà, donc Ban Ki-moon qui va maintenant prendre la parole, et puis ensuite ça sera au tour du président de la République française, François Hollande, qui est à la droite justement de Laurent Fabius, qui préside la COP. On parlait à l'instant, pardon, je vous ai coupé, Céline Rammstein, de cette nécessité d'avoir un accord contraignant dont le secrétaire d'État américain nous disait il n'y aura pas d'accord contraignant.
Oui, alors bon, après il a un petit peu rectifié le tir en clarifiant un peu ce qu'il voulait dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, on ne pourra pas faire ratifier un traité au Parlement, à la Chambre des représentants et au Sénat américain, qui sont, qui sont sur une majorité républicaine et qui ne ratifieront pas dans l'état actuel des choses un traité. Donc, il faut qu'on arrive à Paris à faire un accord juridiquement contraignant qui puisse être ratifié par les États-Unis sans passer par le Congrès. Et ça, c'est, bon, ça veut dire beaucoup de choses un peu complexes et techniques en droit américain.
Mais c'est possible.
C'est possible. Et ce que ça veut dire pour Paris, c'est que évidemment, il faut un accord contraignant. Et François Hollande l'a bien rappelé. Pourquoi il faut un accord contraignant? Pas simplement pour faire plaisir à la France ou à l'Europe qui le demande fortement, mais parce que ça envoie un signal très important à la communauté internationale. Même si on sait qu'au niveau international, on peut discuter des contraintes et du réel pouvoir coercitif, mais symboliquement et pour le droit, pour les associations dans les pays, pour pouvoir avoir un élément de référence auquel vous pouvez vous rattacher, par rapport auquel vous pouvez juger votre propre droit national, c'est extrêmement important. Donc à Paris, ce à quoi on s'attend, c'est peut-être plus un accord juridiquement contraignant sur, je dirais, les processus, sur les Par exemple, les manières de respecter son engagement, l'engagement à revenir tous les 5 ans avec une nouvelle contribution, l'engagement à revoir sa contribution à la hausse, ce type d'engagement-là, plutôt que des engagements de résultats ou des engagements chiffrés, parce que ça, on sait que ça passera pas, mais pas seulement pour les États-Unis. La Chine a été aussi extrêmement réservée sur cette question.
On va en parler dans un instant de la Chine. Sur les États-Unis, Edwin Zakaï, avant justement de parler de la Chine, parce qu'évidemment, ça sera les deux gros acteurs dans ces négociations, hein, le fameux G2, Edwin Zakaï.
Les États-Unis, bien entendu, jouent un rôle très important. Il y a une solide inflexion grâce au président Obama. Maintenant, il y a des élections dans un an qui pourraient changer évidemment des choses, mais ça a avancé. Maintenant,
je vous coupe, excusez-moi, Edwin Zakaï, on va écouter le chef de l'État qui prend la parole.
Mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Et pourtant, il y a 2 semaines, ici même à Paris, c'est la mort que semait un groupe de fanatiques dans les rues. Je veux ici vous exprimer la reconnaissance du peuple français pour toutes les marques de soutien, tous les messages, tous les signes d'amitié que nous avons reçus depuis le 13 novembre. Ces événements tragiques nous affligent, mais en même temps nous obligent. Ils nous forcent à nous concentrer sur l'essentiel. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir. Car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes. Une planète viable.
Nous leur devons une planète préservée. On voit évidemment le chef de l'État qui immédiatement a lié effectivement les deux phénomènes, lie les deux phénomènes. On va le laisser poursuivre. Bien sûr, il y aura beaucoup d'analyses sur ce fameux discours, mais je note, vous avez entendu comme moi, qu'il parle de moments historiques. On sent que c'est de ça dont il s'agit. Revenons, si vous le voulez bien, Edwin Zakaï, sur ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire cette idée, cette difficulté de trouver cet accord contraignant. Alors, il y a évidemment les États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Écoutez, par exemple, c'était François Hollande, justement, il y a quelques semaines maintenant, il se prononçait à propos de cet accord qu'il souhaite, et puis il y avait également à ses côtés le président Xi Jinping. Écoutez-le.
D'ores et déjà, la Chine et la France prennent des décisions dans le cadre d'une stratégie commune pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle.
La Chine attache une grande importance à la question du changement climatique. Nous apprécions les efforts de la France. Nous souhaitons assurer le succès de la conférence de Paris.
Voilà, donc ça c'était il y a quelques semaines maintenant, discours de François Hollande et de Xi Jinping. Il y a quelques jours justement, du côté de la Chine, vous avez peut-être entendu Edwin Zakaï, le négociateur chinois Xi Zhenhua, qui déclarait, je le cite, « Il subsiste des divergences de vues, mais je crois qu'à mesure qu'on s'engagera au cœur des négociations, chaque pays jouera un rôle constructif, fera preuve de flexibilité et dans la phase finale, nous devrions être capables de dégager un consensus ». Il parle pas d'accord contraignant, il parle de consensus. Est-ce qu'il faut y voir là, une forme d'inquiétude sur ce que sera précisément le texte et sur ce que la Chine voudra bien faire comme effort, Edwin Zakaï? On sait l'importance des mots dans ce genre de choses, hein, puisque là, en gros, il va être question de faire le ménage sur le texte de base sur lequel on est parti, donc enlever des mots, changer les virgules, etc. etc. Donc c'est très important, il parle de consensus.
Mais il faut peut-être rappeler en deux mots le processus. Donc pour le moment, ce qui s'est passé, c'est que pratiquement tous les pays du monde ont remis des engagements, ce qui est nouveau, hein, donc ça c'est quand même très très nouveau, c'est un des points vraiment clés de cette conférence. Ces engagements ne les lient pas nécessairement, hein. Plusieurs pays dans les engagements expliquent qu'ils ne sont pas nécessairement liés par cela, ils ne sont pas passés par exemple dans le Parlement de ces pays, donc c'est plutôt des indications. Maintenant, on bâtit un projet sur ces engagements et un point très important, c'est la possibilité de vérifier les émissions à l'avenir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel pas mal de pays ont bloqué. Je crois qu'il y a eu des avancées par rapport à ça. Donc la vérification, les engagements. Voilà, alors est-ce qu'on ira beaucoup plus loin que ça, l'avenir le dira. Mais c'est clair qu'il y a pas mal de pays, et c'est pas que les États-Unis, hein, qui sont réticents à avoir quelque chose d'international qui s'impose à eux.
Céline Rammstein, justement, sur ces engagements, parce qu'en avant, évidemment, de cet événement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tous les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On a rendu public les contributions des uns et des autres, le fameux INDC. Alors, ce qui est intéressant, il a raison de le rappeler, Edwin Zakaï, c'est que c'est la première fois que, finalement, ce sont les pays eux-mêmes qui fixent leur propre contribution. Et là, c'est vrai, on a un changement de méthode. Alors, on verra si c'est efficace ou pas. Mais d'ailleurs, sur ces engagements, quel crédit est-ce qu'on peut accorder aux chiffres qui ont été avancés par les uns et les autres? Parce que finalement, on peut toujours avancer des chiffres. Reste à voir derrière si on vérifie que les engagements ont bien été tenus, ce qui est une vraie question.
Oui, tout à fait. Rammstein. D'ailleurs, ce sera un des enjeux de Paris, hein, de mettre en place un processus durable dans le temps qui permette de vérifier ces engagements, qui permettent de revenir des rendez-vous réguliers pour se revoir et voir qui a fait quoi, qui a respecté ses engagements ou pas.
Et ça, c'est prévu, ça,
ça. Alors, ce sera dans l'accord final, mais pour l'instant, c'est un élément très très important du brouillon d'accord. La crédibilité des chiffres de ces INDC. Alors d'abord, pour dire, on en a eu 156. L'Union européenne, on en fait un pour 28, donc ça représente 183 pays. C'est énorme, hein. Il y a 195 pays à la Convention, pour vous donner une idée. Donc 183, ça s'est jamais vu. Il y a des pays, c'était la première fois qu'ils faisaient cet exercice de réfléchir à comment on peut apporter notre pierre à cet édifice, comment on peut aider à réduire le réchauffement climatique. La crédibilité des chiffres, alors, comme vous venez de le dire, c'est vrai que il y a certains pays qui n'ont pas encore passé les lois au sein de leur parlement ou de leur juridiction domestique. Donc, bon, pour certains pays, on peut un peu questionner les objectifs. Ceci dit, si on prend l'exemple de l'Union européenne, nous, notre objectif de réduire nos émissions de 40% à horizon 2030, c'est un chiffre très solide. Parce que c'est un chiffre qui a été négocié avec les 28 pays. C'est l'objet d'un consensus au plus haut niveau, au niveau des ministres, au niveau même des chefs d'État qui, dans les conseils européens, ont soutenu ce chiffre. Même le Parlement européen a fait un rapport sur cette question. Donc, je dirais, par exemple, le chiffre de l'Union européenne, il est très sûr. Et on dit au moins 40%, ce qui n'est pas sûr, c'est combien on arrivera à faire.
Mais c'est pas l'Union européenne, en réalité, qui nous inquiète dans cette affaire-là. On sait bien que c'est peut-être la plus sérieuse de toutes.
Mais si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple. Les États-Unis, ils ont, via Obama et son autorité présidentielle, mis en place ce qu'il appelle son Clean Power Plan, donc un plan pour limiter les émissions de ses centrales électriques. Il va faire son maximum en tant que président. Après, vous l'avez rappelé, il y a des élections l'an prochain, il y a un congrès. Donc, on reste aussi dans un droit domestique. Hein. C'est difficile pour les dirigeants d'aller plus loin que ce que leur permet aussi leur droit national.
Edwin Zakaï.
L'importance de ces INDC en langage technique, donc ces contributions volontaires, est grande. Il faut la souligner, pas seulement pour les réductions prévues, mais aussi parce que beaucoup de pays écrivent là-dedans les projections sur les impacts du changement. Et c'est saisissant. Je vous donne deux exemples, par exemple l'Iran, l'Égypte. Dans ces contributions, ces deux pays écrivent qu'en 2030, par exemple, en Iran, ils vont avoir 25% d'eau en moins. En Égypte, ils expliquent que 12% du delta du Nil va être beaucoup plus salinisé. Enfin, et donc ça me semble assez important parce que ça veut dire que des pays s'emparent vraiment de la question en montrant que c'est une vraie menace pour eux. Alors après, il y a aussi des demandes de financement, hein, dans ces contributions. Et si on les additionne, on arrive à bien plus que 100 milliards par an.
Ouais, on va venir évidemment au financement dans quelques instants.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
la nécessité de dégager des financements pour faciliter les transferts de technologies.
Justement, on parlait à l'instant de financement. François Hollande en parle exactement en même temps que nous, Edwin Zakaï, pardon, et Céline Brandstein, toujours en direct de la COP21, en direct du Bourget, où nous avons posé nos micros pour une semaine, pour vivre un peu ces négociations au plus près. Il y a une chose sur laquelle, évidemment, il va falloir beaucoup, beaucoup discuter, parce qu'il y a eu les engagements des uns et des autres, mais finalement, si ça suffisait, il n'y aurait plus rien à discuter. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est les financements, l'aide financière. Les délégués des pays en voie de développement ont exprimé un certain mécontentement sur cette question, essentiellement les financements promis par les pays du Nord vers les pays du Sud. Et quand on regarde un peu les choses de près, on a de quoi s'étonner. On regarde par exemple le rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a été commandé par la COP21, et on évalue à presque 62 milliards la somme déjà mobilisée sur les 100 milliards qu'on espère à l'horizon 2020. Sur la seule année 2014, on a réussi à mobiliser 10 milliards supplémentaires. Donc, si je compte bien, à l'horizon 2020, on y est presque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas content? Pourquoi est-ce que du côté des pays en voie de développement, on n'est pas satisfait de ce financement? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont cachées, en tout cas pas directement visibles derrière tout ça. Céline Brandstein, vous nous expliquez?
Oui, alors, il y a très nombreux éléments, parce que ces questions de finances, elles sont très, très compliquées. Mais un des premiers éléments, c'est d'abord les pays en développement ont malheureusement un peu perdu la confiance dans les promesses qui leur ont été faites par le passé sur ces questions de financement. Donc il y a une défiance quand même très très importante sur les promesses liées au financement. Un autre problème, c'est cette question de, vous voyez, comment on compte. Alors, par exemple, le rapport de l'OCDE dit 62 milliards. Beaucoup de pays en développement disent oui, mais finalement, on a un peu additionné, je dirais, des choux et des carottes. Il y a des choses qui n'ont rien à voir. Il y a des choses, c'est de l'aide au développement, ça devrait pas être là-dedans. Bon, on rentre dans des questions très techniques et qui, en fait, sont quand même aussi très politiques. Et donc, ça fait que ces questions de financement sont très, très sensibles et très, très, très difficiles. Et puis, les 100 milliards, rappelons que c'était quand même 100 milliards par an. Donc là, on parle de 2013, 2014, on y arrivera peut-être en 2020. Qu'est-ce qui se passe après 2020? Ça, c'est aussi une énorme question sur laquelle, alors qu'il y a un texte qui a été adopté, les divergences d'analyse ou de compréhension sont très importantes. Et puis, juste un dernier élément, c'est que au-delà de ces 100 milliards, comme on le disait, quand on regarde les INDC et les besoins que vont avoir les pays en développement pour faire face au réchauffement climatique, c'est beaucoup plus que ça, finalement.
Les INDC, je rappelle, les fameux engagements volontaires.
Oui, hein. Vous faites bien de le rappeler.
Pour les auditeurs,
on a beaucoup de
on va en parler beaucoup, donc on va s'habituer aux termes, mais c'est important de le rappeler.
Et puis, donc, ils vont avoir besoin de beaucoup plus ce que 100 milliards pour faire face au réchauffement climatique. Et puis, si on veut les aider à faire cette transition énergétique, à aller vers les énergies renouvelables, à construire des villes avec des transports en commun, c'est pas 100 milliards de dollars qu'il va falloir. C'est vraiment des milliers de milliards de dollars. Et pour ça, il va falloir réorienter les investissements qui sont encore beaucoup trop dans des énergies fossiles, dans des énergies qui dépensent beaucoup de carbone, vers des énergies renouvelables.
On va y venir dans un instant. Sur ces financements, Edwin Zakaï, je crois que, en tout cas, selon le rapport de l'OCDE, vous parliez tout à l'heure d'impact, 16% seulement des 62 milliards mobilisés devrait aller à des mesures d'adaptation aux impacts du réchauffement.
Oui, donc c'est comme on l'a très bien dit, c'est difficile de comptabiliser ce qui est vraiment climat, ce qui est vraiment adaptation, parce que finalement, beaucoup de projets de développement peuvent servir aussi à l'adaptation. Moi, j'insisterai aussi sur le fait que dans certains pays, l'argent qui arrive au sommet de l'État, ou qui pourrait arriver, n'arrive pas nécessairement en grande quantité chez les personnes vraiment les plus défavorisées. J'ai eu l'occasion de participer à des recherches où on allait dans des campagnes en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas beaucoup de structures pour amener vraiment ces sommes vers les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc il y a aussi un travail à faire au niveau de la façon que cet argent soit efficace. C'est possible par rapport à des grands projets, par exemple des villes pour s'adapter ou des ports, mais par rapport à l'agriculture qui va être très touchée, je crois qu'il faudrait aussi s'intéresser à ça, l'efficacité de l'aide elle-même.
Céline Brandstein, avant de parler de l'énergie, et en particulier de l'énergie fossile, encore un mot sur cette question d'aide financière et en particulier sur la manière dont les pays en voie de développement ont du mal peut-être à faire bloc sur les questions qui vont nous intéresser toute cette semaine, sur les négociations en général, parce que l'une des failles peut-être justement de ce fameux groupe qu'on appelle le G77, qui regroupe en fait 130 pays, c'est que précisément on a du mal à dégager un consensus et à peser ensemble dans les négociations finalement. Ça, c'est une des vraies difficultés.
Oui, bah, comme tout groupe, hein, nous, l'Union européenne, c'est vrai qu'à 28, c'est tout aussi difficile. Alors à 134, vous imaginez à quel point c'est difficile. En plus, on parle de pays très, très, très différents. Hein.
Non, mais on se dit que, par exemple, sur la question de l'aide financière, tout le monde pourrait être d'accord, puisque
globalement,
ils réclament tous de l'argent des pays du Nord.
Globalement, bon. Ils sont quand même tous d'accord pour réclamer plus question. D'argent des pays du Nord. Par contre, quand on regarde de près les choses au sein du G77, en fait, avant, c'était clair, il fallait que les pays du Nord, ils avaient une responsabilité historique, l'argent devait venir du Nord vers le Sud. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des transferts sud-sud. À Lima, c'était assez intéressant parce qu'il y a eu une bataille du délégué mexicain qui a dit « Mais nous, dans le texte, on veut que les efforts qu'on fait pour le financement soient reflétés. » Et donc, il a demandé à ce qu'il y ait une partie ajoutée au texte pour dire que c'était les pays développés et ceux qui étaient en capacité de le faire aussi, pour reconnaître des efforts que font le Mexique aujourd'hui, que fait la Colombie, que fait le Pérou, par exemple, pour mettre de l'argent au ce qu'on appelle le fonds vert pour le climat. Donc, il y a aussi des financements qui viennent du Sud et c'est quand même assez important de le dire.
Ce que fait aussi la Chine aussi.
La Chine a annoncé 3 milliards récemment. Alors, c'est pas exactement pour le fonds vert, mais là encore, je rentre pas dans les détails techniques. Mais la Chine aussi investit pour de la finance climat dans les pays du Sud.
Et oui, parce que j'en profite et puis on va venir, je vous promets, à la question des énergies. Mais depuis la conférence de Rio, il y a ce principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire, en gros, les pays riches, les pays développés ont davantage pollué que les pays en voie de développement et donc ne peuvent pas être bridés dans leur processus de développement. Donc, il est normal que les pays riches payent plus que les autres, en tout cas soient considérés comme plus responsables. Mais c'est vrai que depuis Rio, les choses ont considérablement évolué. Si on regarde par exemple la Chine, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, elles sont en valeur absolue plus importantes que l'Union européenne, mais aussi par habitant. Quand on regarde par habitant, un Chinois pollue davantage qu'un Européen. Vous faites un peu l'amour, Céline Rammstein, c'est pas tout à fait vrai?
En fait, tous les deux un peu l'amour. Oui.
Allez-y.
Disons que c'est comparable. Ce n'est pas plus. Et alors, il faut aussi tenir compte du fait qu'on produit beaucoup en Chine pour des produits qu'on importe en Europe.
Bien sûr.
Ça joue un rôle. C'est pas un rôle nécessairement
mais
énorme.
Est-ce que vous pensez pas qu'il faut revoir peut-être justement ce principe de responsabilité commune mais différenciée?
Le principe, non. Mais les groupes de pays, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des pays beaucoup plus riches. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus pollué. Mais cette distinction développé, developing, développé ou en voie de développement qui est partout dans ce projet d'accord, alors que on le verra tout à l'heure, le mot énergie ne s'y trouve presque pas. Cette distinction, elle est partout et elle n'a plus beaucoup de sens. Donc quand vous avez l'Arabie Saoudite et le Koweït qui sont dans le même groupe que le Mali ou le Burkina Faso, ça n'a pas de sens. Enfin, ça, par rapport à ces questions-là. Et donc il y a vraiment un changement à faire et il y a évidemment des réticences qui sont dues à ce que vous avez expliqué. C'est un appel de fond. Mais là, je crois qu'il
Il faut pas le revoir. Au contraire, il faut affiner les choses et être encore plus précis, finalement, pour comprendre, justement, les différences entre les différents pays.
Il y a besoin d'une énorme solidarité entre les riches et les pauvres, mais ce n'est plus, les frontières ne passent plus dans ces anciennes limites de Rio.
Céline Rammstein, Rio est dépassé.
Alors, c'est un principe fondateur de la Convention. Il est dans le texte initial, donc ça, on le changera pas en tant que tel. Et puis, c'est un principe qui a du sens, et qui, en termes de justice, est très important. Mais je crois qu'Edwin Zakaï a tout à fait raison. Il faut une analyse un peu plus fine. On ne peut plus voir le monde en deux blocs, surtout quand ce bloc de pays en développement a considérablement changé. Ceci dit, ça va être l'enjeu de Paris de voir comment on passe d'un système où finalement chacun a fait sa contribution comme bon lui semblait, où on n'était plus dans cette logique où seuls les pays développés prenaient des engagements, ce qui prévalait encore pour Kyoto, et comment à partir, d'une autodétermination où chacun finalement fait ce qu'il veut, on arrive quand même à passer dans une logique d'ambition et dans une logique de responsabilité. Et c'est ce qu'on entend de la part en ce moment des délégations des pays les plus pauvres, y compris par exemple de l'Inde. L'Inde est très très véhémente sur le sujet en disant « Mais quand même, il y a un problème de justice et les engagements que vous avez mis sur la table, vous, pays riches, vous, pays responsables, elles ne sont pas du tout suffisantes pour nous mettre sur la trajectoire de 2 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?»
Alors, l'énergie, justement, qui est très peu présente, hein, vous l'avez dit, je crois, deux fois, on parle d'énergie, Edwin Zakaï, dans le document sur lequel on va travailler, sur lequel on va négocier, deux fois le terme énergie.
Oui, je ne sais même pas si on en parle, c'est à peine mentionné, donc il y a un tabou là-dessus. C'est là, tout à l'heure, on disait, il y a beaucoup de niveaux à ce type d'accord. Hein, et donc, c'est là qu'on voit aussi les différentes perspectives sur un accord comme celui-là. Autant dans les médias ou dans les rapports scientifiques, on voit que le point clé, c'est comment est-ce qu'on sort des énergies fossiles le plus vite possible, gaz, charbon, pétrole. C'est très difficile à faire, mais c'est ça l'enjeu. Et autant, dans l'accord, ça n'y est pas. Donc... Voilà.
Comment comprendre ça, Céline Rammstein? C'est fou. En 2013, juste un petit chiffre quand même. 2013, la FMI avait publié un rapport intitulé « Réforme des subventions à l'énergie, enseignement et conséquences », dans lequel il appelait à réformer justement ces subventions. On nous dit que pour 2015, chiffre du FMI, les subventions, elles atteignaient 4 900 milliards de dollars, c'est-à-dire 6,5% du PIB mondial. On se rend même pas compte tellement c'est énorme. Voilà, comment comprendre ça, Céline Rammstein? Pourquoi le gros point noir de ces négociations, c'est qu'on est incapable de remettre en cause l'exploitation de nos énergies fossiles, alors que c'est l'enjeu?
Non, vous avez raison, c'est vrai que ça paraît surprenant. Je crois qu'un des éléments de réponse, c'est d'abord qu'on a compris, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qu'on n'arriverait pas à tout négocier dans ces accords climatiques internationaux. On veut un accord universel dans lequel vous avez des pays pétroliers qui dépendent complètement des énergies fossiles pour leur économie. On n'arrivera pas à négocier avec eux dans un processus diplomatique comme ça rapidement la fin des énergies fossiles. Donc on va l'enjeu de l'accord de Paris, et c'est, enfin, on peut le regretter, mais l'enjeu de l'accord de Paris, ce qu'on peut réalistiquement faire vu les conditions actuelles, c'est envoyer un signal, dire voilà, le monde se dirige vers un mode de développement bas carbone, on s'engage à se remettre dans une trajectoire de 2 degrés d'ici la fin du siècle, et soyons très clairs, 2 degrés d'ici la fin du siècle, ça veut dire des émissions carbone nettes nulles dans la deuxième moitié du siècle, ça veut dire qu'on va diminuer nos émissions de façon drastique, ça veut quasiment dire enfin, 100% des énergies renouvelables. Enfin, globalement, ça veut dire qu'à terme, on n'utilisera plus d'énergie fossile. Donc, si l'accord arrive à envoyer ce signal-là, ensuite, ça envoie un signal à l'économie, aux investisseurs, et on voit déjà émerger la notion de risque carbone pour les assurances, pour les investisseurs, y compris pour le FMI, qui pour la première fois va intégrer cela dans ses rapports. C'est très important parce que ensuite, là, ça permettra de réorienter les choses et d'arrêter de consommer des énergies fossiles. Et pour répondre à votre question, des subventions aux énergies fossiles, c'est vrai que ça paraît aberrant, finalement, de dépenser autant pour aider les énergies fossiles à continuer. Là où, si vous regardez les subventions aux énergies renouvelables, c'est tout petit par rapport à ces 6% dont vous parliez. Donc, il y a un vrai enjeu, y compris en investissement pour la recherche et le développement pour les renouvelables. Il va y avoir une grosse annonce sur ce sujet aujourd'hui pour aller plus vite et pour mettre l'argent là où il faut, c'est-à-dire dans la transition.
Mais vous y croyez? Vous avez l'impression précisément qu'on va enclencher cette fameuse révolution énergétique qu'on appelle tous de nos voeux et sortir de ces subventions complètement hallucinantes, quasiment 5000 milliards de dollars par an de subventions pour les énergies fossiles, pour aller justement vers une énergie plus propre, disons, Edwin Sakai? Vous y croyez raisonnablement? On peut l'attendre de cette COP21?
Juste un petit mot sur les 5000 milliards. Je pense qu'ils intègrent le coût des impacts, le coût des dommages.
Oui, absolument.
Par contre, il y a des subventions directes qui sont de l'ordre de 500 milliards, mais qui sont beaucoup plus que pour le renouvelable. Ça reste aberrant et ça reste quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est des demandes qui sont faites depuis 15 ans, 20 ans dans les instances internationales. Alors maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je crois qu'il faut travailler avec les pays producteurs de gaz et de pétrole. C'est vrai. C'est un énorme problème pour eux. Cette évolution est un énorme problème pour eux. Et donc, il faut travailler à ce problème, en fait. On ne peut pas simplement les mettre dans un coin et attendre que, voilà...
Pour l'instant, c'est ce qu'on fait.
Sont toujours, en plus, ces pays-là qui ont été des facteurs de blocage. Ce n'est pas les seuls, il ne faut pas jeter la pierre. Mais il va falloir travailler avec ces pays-là, parce que c'est indispensable.
Céline Rammstein?
Oui, alors il faut travailler avec eux, puis il faut d'une certaine façon leur proposer des alternatives aussi. Il faut qu'ils investissent dans les énergies renouvelables, il faut pas juste, on veut pas que toutes les économies du monde s'écroulent, il faut préparer cette transition. Et est-ce qu'on va y arriver dans les 2 semaines là, tout de suite à Paris? Non, on n'aura pas réglé tous ces problèmes en 2 semaines. Par contre, ce qu'on aura fait, c'est envoyer ce signal pour que ça se passe. Et vous demandez si on y croit. Moi, c'est pas que j'y crois, c'est que je le vois. Quand on discute avec les assureurs,
donnez-moi illustrez-moi ça.
Si on prend l'exemple d'AXA, on avait une discussion encore hier avec des investisseurs, ils disent, au niveau de notre board, enfin de notre conseil d'administration, etc., il y a des vraies discussions là-dessus. Le FMI, je vous le dis, a intégré ça dans ses rapports. Quand on regarde les contributions de la Chine et de l'Inde, ils vont doubler leurs investissements dans les énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Donc on voit ce changement de façon très très claire. Quand vous regardez aussi la part des énergies renouvelables, l'an dernier, en capacité installée pour produire de l'électricité dans le monde, les énergies renouvelables étaient devant les énergies fossiles. Donc il y a tout un tas de signes qui nous montrent que cette transition est en marche. Ceci dit, ces signes nous montrent aussi qu'elle ne va pas assez vite, qu'elle n'est pas suffisante, et donc il y a un enjeu énorme pour l'accélérer très très rapidement.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde toute cette semaine en direct du Bourget. Quel climat à la COP21 aujourd'hui, répondre à l'urgence avec nos deux invités, Selim Rahnstein et également Edwin Zakaï. Alors tous les jours cette semaine, à l'occasion de cette série sur la COP, autour de la COP, en direct de la COP, en direct du Parc des Expositions du Bourget, Tiffaine de Roquigny et Clémence Alézard vont nous proposer une séquence spéciale, la COP comme si vous y étiez, l'écho du Bourget. Bonjour Clémence Alézard.
Bonjour Florian,
merci
bonjour à toutes et à tous
d'être avec nous ce matin. Donc pour le premier écho du Bourget, c'est vous qui avez sondé l'humeur et la rumeur de cette COP21. Vous avez rencontré une activiste jordanienne, Safa Al-Jayoussi. Et elle n'est pas la seule ressortissante de son pays, car c'est une première. Le roi de Jordanie a lui aussi fait le déplacement jusqu'au Bourget pour sa première COP. C'est bien ça, Clémence ?
Oui, tout à fait, Florian. Le roi Abdallah II est ici à quelques encablures de nous, au même titre que près de 150 chefs d'État du monde entier. D'ailleurs, tous les pays du Golfe sont pour la première fois représentés. On compte le prince du Qatar, celui du Bahreïn ou encore celui d'Arabie Saoudite. Pour ce qui est du Maghreb, les présidents tunisiens et algériens sont aussi ici, ou encore le roi du Maroc. Une nouvelle qui réjouit évidemment Safa Al-Jayoussi, avocate et militante. Elle s'occupe de la principale ONG environnementale du monde arabe, Indie Act. Les chefs d'État que je viens de citer, cela fait maintenant près de 6 ans qu'elle les traque sans relâche. Autre source de satisfaction immense pour elle, ces pays ont tous, sans exception, remis leur contribution, ces fameuses INDC que vous avez maintes fois évoquées ce matin avec vos invités, Florian. Elles sont de qualité, d'ampleurs inégales. Pour le Qatar, par exemple, il n'y figure aucun objectif chiffré, alors que la Jordanie prévoit près $1 million d'investissement en énergie renouvelable. Alors, pour ce premier écho du Bourget, j'ai voulu comprendre ce qui avait motivé ces anciens boudeurs ou dilettantes des grands messes du climat
à faire le déplacement
jusqu'ici. J'ai arpenté, en partie, je l'admets, les quelques 500 000 mètres carrés que compte ce parc d'exposition du Bourget, longé inlassablement les 32 salles de négociation, slalomées entre ces poteaux, drapeaux aux couleurs de tous les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat et qui nous accueille ici à l'entrée du parc, franchi bien entendu moult portiques de sécurité. Et enfin, j'ai rencontré Safa Al-Jayoussi qui venait à peine de fouler pour la première fois le sol du Bourget. Alors, que lui inspire la présence de tous ces leaders arabes ? On écoute tout de suite Safa Al-Jayoussi.
Everyone is not necessary on a presidential level, but all the delegations are here.
Tous les pays ne sont pas représentés par leur président, mais toutes les délégations sont là. J'ai simplement un doute pour la Syrie, mais sinon toutes les délégations sont là. Avant, j'étais la seule à assister aux sessions. Indie Act est la seule ONG accréditée, mais cette fois, nous avons réussi à rassembler 16 personnes. Pour ma part, je m'occupe de la communication et de la campagne des médias pour les principales régions du monde arabe, car c'est très rare d'entendre des informations en arabe sur le changement climatique. Ce n'est pas une priorité pour le public du Golfe. Donc mon rôle, c'est d'en faire une priorité. C'est une première mission. Et la deuxième mission, qui est la plus importante, consiste à porter ce discours à un plus haut niveau. Je suis chargée des plaidoyers et des différentes réunions avec les délégations arabes. Je suis les négociations depuis 6 ans. Et oui, je vois les différences, car hier encore, nous avions des marches pour le climat, autant au Liban qu'au Maroc, en Jordanie, au Yémen et en Tunisie. Indépendamment de la situation politique de ces pays, les gens expérimentent les changements climatiques. Et oui, il y a une énorme différence à cause de l'urgence de la situation. En Afrique du Sud, à Doha par exemple, il n'y avait pas de vagues de chaleur, il n'y avait pas d'inondations. Il y a quelques semaines, 6 personnes sont mortes à Alexandrie et à cause des vagues de chaleur, beaucoup de gens sont morts en Irak et en Égypte. Donc les gens sentent déjà l'impact du changement climatique. Et comme l'urgence est là, vous pouvez voir différents changements. Même l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe ont soumis leurs INDC, leurs contributions. Un peu tardivement, mais au moins ils l'ont fait, car leurs économies s'appuient sur les énergies fossiles. Et qu'ils aient soumis leurs contributions, c'est vraiment une très bonne chose. Mais des initiatives sont déjà prises. Les Émirats arabes unis, par exemple, font énormément au niveau national en ce qui concerne les énergies renouvelables. C'est un peu différent pour la Jordanie. C'est un pays en voie de développement et ils n'ont aucune ressource. Donc oui, en effet, le document qu'ils ont remis aux Nations unies, leurs INDC, est très précis, chiffré. Ils doivent être précis pour obtenir des financements. C'est très différent pour les autres pays du Golfe. Ils n'ont pas besoin de tels financements. Et bien sûr, c'est un signal politique. Plus on est précis, plus on se contraint à le mettre en œuvre. Et si on reste très vague, eh bien la contrainte est moins importante. Cela explique que le document du Qatar soit plus vague. Mais c'est vrai que les choses ont changé depuis la conférence de Doha. tous les pays avaient été invités à soumettre leurs projets pour diversifier leurs initiatives. Et là, ils l'ont effectivement inscrit dans leurs INDC. Mais la chose la plus importante, c'est que ces pays du Golfe sont confrontés à une énorme vague de chaleur. Et on a pris conscience que cette sécheresse et ces ravages pouvaient affecter un événement religieux majeur en Arabie Saoudite, le pèlerinage à la Mecque. Donc, ils se doivent d'agir. L'autre chose, c'est que les revenus des pays du Golfe proviennent pour une très large partie de l'extraction des énergies fossiles. Mais on sait désormais que cette situation ne peut pas durer éternellement et qu'ils doivent donc diversifier leurs économies. D'autant plus que le contexte géopolitique les affecte évidemment directement. Et ils ont déjà réduit le prix des barils de pétrole, donc ils sont de toute manière contraints d'investir dans les énergies renouvelables. Pour moi, qu'il y ait le roi de Jordanie présent pour la première fois, c'est juste énorme, c'est remarquable. Bien sûr, j'ai conscience que les présences de tous ces leaders arabes sont aussi très clairement politiques après les attentats qui ont frappé Paris il y a 2 semaines. Ils veulent montrer leur solidarité avec les victimes et avec François Hollande. Mais oui, je suis optimiste, parce que maintenant qu'ils ont fait le déplacement, il ne s'agit plus seulement des négociations. On parle de changement climatique à un niveau présidentiel, et cela envoie un signal aux populations, aux vraies familles.
Toucher les vraies familles, c'est en effet une urgence, car comme l'évoquait Safa Al-Jayoussi, des vagues de chaleur ont déjà fait des ravages. Pour ne citer qu'un exemple, la ville de Bandar Mashhar en Iran atteignait cet été les 74 degrés, preuve, s'il en fallait, que le dérèglement climatique est une réalité.
Voilà, c'était l'écho du Bourget aujourd'hui par Clément Salazar. Demain, ce sera Tiffaine de Requigny avec chaque jour donc des voix, des témoignages que vous avez, que vous allez recueillir dans les couloirs de la COP21, pas celle de nos chefs d'État, de nos chefs de gouvernement, mais celles qui font aussi cet événement. Intéressant, effectivement, Céline Rammstein, ce qu'on entendait, parce que bien sûr, c'est un véritable défi que de faire de ce dérèglement climatique une préoccupation dans ces pays du Golfe. Alors, c'est vrai pour tous les pays producteurs de pétrole. On parlait à l'instant de pétrole, mais c'est peut-être vrai en particulier dans les pays du Golfe.
Oui, et vous voyez ce qu'elle disait sur ils ont réalisé que finalement l'ensemble de leurs profits et qu'ils faisaient beaucoup d'argent sur le pétrole et que bon bah à un moment donné il va falloir avoir un autre business model sinon ça va leur poser un problème économique. Ça je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus entendu. Et puis évidemment 74 degrés, enfin, vous imaginez, nous l'été de 2003 a fait énormément de victimes en France et on n'était pas à 74 degrés, je ne sais pas à combien on était, mais c'était autour de 30 degrés plutôt. Donc bon, on peut imaginer ce
mais
que ça
représente. Mais pour autant, est-ce que leur contribution, les engagements qui ont été pris, alors par exemple par l'Arabie Saoudite ou par le Koweït, est-ce qu'ils sont dans les clous, et dans les clous des fameux, évidemment, 2 degrés que l'on s'est imposé. Vous faites nom de la tête, les auditeurs ne voient pas l'image, mais Edwin Zakaï, bien sûr, on n'y est pas. Alors, ce n'est pas les seuls, mais eux en particulier ne le sont pas.
C'est une inflexion. Maintenant, je crois qu'on parle beaucoup de pays, mais il faut aussi parler de compagnies. C'est vrai que pour la production de pétrole et gaz, les pays restent en chiffre d'affaires supérieur aux compagnies, mais enfin il y a quand même les compagnies aussi qui jouent un rôle, et il est important que les compagnies changent aussi leur stratégie. Ça se fait dans certaines et pas dans toutes. Alors pour répondre à votre question, ben ça vous le verrez certainement durant toute la semaine parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir en détail, mais oui, les 2 degrés c'est très compromis, et il faut aussi comprendre que ces 2 degrés je crois qu'ils sont très mal compris dans la
population. Il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire que cette semaine on peut pas se mettre d'accord pour justement engager davantage les différents pays pour arriver à la fin à ces fameux 2 degrés.
Bah, c'est-à-dire que
c'est pas l'enjeu, quoi.
Si vous faites une réduction aujourd'hui ou si vous la faites dans 20 ans, l'effet est très différent. Ouais. Donc tout ce qu'on ne fait pas rapidement, on doit faire encore beaucoup plus tard, vous comprenez ? Et je voudrais dire juste une chose sur les 2 degrés, parce que je crois que c'est difficile à comprendre par le commun des mortels. C'est que, moi, ce qui m'a frappé, c'est un jour où j'ai vu une conférence où on m'a dit que entre la période glaciaire et maintenant, la différence était, vous savez combien ? Entre 4 et 5 degrés. Ça, c'est la différence entre l'époque glaciaire, où les mers étaient 120 mètres plus bas, et maintenant. Donc 2 degrés c'est énorme déjà, et 4 degrés c'est encore plus, et donc je crois que c'est important aussi de le dire. 2 degrés c'est pas 2 degrés dans une journée.
Céline Rammstein.
Oui, alors juste pour
guise de conclusion.
Ouais, et du coup remettre les choses en perspective. Est-ce que en 2 semaines tous les pays qui sont venus vont remettre en cause les INDC qu'ils ont mis sur la table, les rendre plus ambitieux, etc.? Malheureusement, je ne crois pas. Par contre, et c'est l'enjeu de l'accord de Paris, il faut qu'on arrive à mettre sur la place sur la table un cadre qui permette la révision de ces contributions et, comme vous l'avez dit, le plus vite possible, parce que les actions, il les faut avant 2020, au pire avant 2030, sinon là, pour le coup, ce sera très très difficile et très très coûteux de se remettre dans les deux degrés. Et ça, c'est l'accord, je dirais, c'est le socle de ce qui va se passer à Paris. Il va se passer beaucoup beaucoup de choses tout autour, des annonces des entreprises, des annonces de coalition de pays, c'est-à-dire 2-3 pays, voire 120 pays, voire 50 pays qui se mettent d'accord sur des sujets très précis, et tout ça, ça va aider à l'ambition de l'accord et à nous remettre sur une trajectoire à 2 degrés.
Merci beaucoup, en tous les cas, Alain et à l'autre, de nous avoir aidé à comprendre les grands enjeux qui vont être négociés pendant 15 jours ici au Salon du Bourget, où nous plantons nos micros aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Merci à vous, Céline Rammstein, chef de projet COP21 à l'IDRI, et merci à vous, Edwin Zakaï, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Dans un instant, merci. Sur France Culture, c'est la grande table avec Caroline Brouet, mais d'abord, c'est la vie moderne face à la menace maintenant si précise du changement climatique, face à l'espoir aussi que représente la mobilisation mondiale sur ce sujet. Que peut la littérature ? À ce questionnement initial, posé dans un article paru dans Libération le 26 décembre 2014, la Maison des écrivains et de la littérature apporte une réponse concrète avec le Parlement sensible des écrivains. À la demande de la Maison des écrivains et de la littérature, une trentaine d'écrivains ont composé des discours inédits qu'ils auraient dû lire à l'Assemblée nationale au cours de la journée du 14 novembre 2015. Cette séance du Parlement sensible vise à porter plus haut dans les consciences, sensiblement et par la voix de la littérature, donc l'urgence d'agir face aux menaces que représente le changement climatique pour l'humanité. France Culture s'associe à cette initiative et propose donc cette semaine dans la vie moderne la lecture de 5 de ces textes par leurs auteurs, Boualem Sansal, Marie Desplechin, Agnès Desartes, Éric Chevillard et Geneviève Brissac. C'est donc aujourd'hui le chaos primitif de Boualem Sansal.